De l'économie, de l'hôtellerie et de l'artisanat dans ce journal. On va aussi partir à Rimatara et à Bora Bora. Et puis de la rame et une miss, ce sera bien sûr en fin d'édition. Le journal de la mi-journée, c'est avec Charlie René. Bonjour Charlie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence bien sûr par un saut à Bora Bora avec cet hôtel qui se refait une beauté.
Oui, une beauté à 3,5 milliards de francs tout de même. Il faut dire que l'hôtel en question, c'est le Conrad Bora Bora Nui et c'est un des plus grands resorts de la perle du Pacifique. Situé sur le Motu Tohopua, sur un site longtemps occupé par le Hilton, il avait rouvert ses portes sous cette nouvelle franchise et avec une cinquième étoile sur sa devanture en 2017, après un premier cycle de rénovation important. C'est reparti donc et le propriétaire Louis Van prévoit un grand chantier, nouvelle toiture, nouveaux pontons, voiries et même hangars, agrandissement et rafraîchissement de plus de la moitié des 114 bungalows et suites, dont certains verront leur deck s'agrandir pour accueillir une piscine donnant sur le lagon. Ça fait envie, mais ça coûte très cher, 3,5 milliards de francs, donc d'après l'agrément de Défisc qui vient d'être délivré par le pays. Car comme en 2017, la collectivité soutient le projet et le soutient même à hauteur de 40%, 1,4 milliard de francs maximum de crédit d'impôt. Pour rappel, le même Louis Van a ouvert courant septembre un autre palace à Bora Bora, le Westin, qui est né d'une rénovation à 8 milliards de francs de l'ex-méridien. Le pays en avait pris en charge 4,8 milliards, soit 60% au travers d'un autre crédit d'impôt.
On vous parle toujours d'économie avec cet avis de pénurie dans l'artisanat.
L'artisanat traditionnel qui semble être victime de son succès. C'est le constat qui a été fait hier à l'ouverture dans le hall de l'Assemblée du Salon des Australes. Alors les paniers, POE et autres chapeaux sont bien en rendez-vous, rassurez-vous, avec, comme c'est le cas depuis quelques années, de nouvelles déclinaisons de couleurs et de motifs, du tressage plus branché qui plaît beaucoup au public, un peu trop même. Les exposants expliquent qu'il manque aujourd'hui de perroé pour produire et d'après Naïma Temari, le problème se situe bien en amont du salon.
Sur le perroé, la difficulté c'est qu'on a dans nos îles et notamment les îles les plus éloignées une population vieillissante, des enfants qui ne rentrent pas par manque d'activité. On a donc nos anciens qui continuent à produire le perroé mais qui font comme ils peuvent avec le temps et l'énergie qu'ils ont. À ça, il faut rajouter le changement climatique. Et du coup, les méthodologies utilisées pour travailler le perroé sont bouleversées, sont bousculées.
Naïma Temari, la ministre des Sports et de la Jeunesse, qui est aussi en charge de l'artisanat et qui doit composer dans ce dossier avec des intérêts divergents entre les Australes et Tahiti. Écoutez.
Il faut qu'on arrive à trouver la solution perroé sans pour autant retirer le pain de la bouche de nos îles. Puisqu'à la base, le perroé est acheminé depuis les Tuhaapé. Et donc c'est cet équilibre qu'il va falloir trouver entre accompagner les Tuhaapé dans la production de perroé, mais en même temps considérer les demandes des artisans traditionnels des Tuhaapé qui sont venus à Tahiti, qui souhaitent eux planter le perroé à Tahiti. Donc grand débat et il va falloir trouver le juste équilibre, mais il faut qu'on s'en occupe maintenant puisque ça fait déjà 15 ans que ces problématiques sont abordées.
Voilà, à noter qu'une réunion a eu lieu la semaine dernière sur ce sujet brûlant du perroé, mais qu'une autre pénurie pointe le bout de son nez. La nacre est aussi devenue une denrée rare. C'est même la problématique la plus urgente, dit Naïma Temari. On a de grosses difficultés alors que dans les prévisions on était censé atteindre ces niveaux dans 2 ans.
Un point sur ces recherches qui continuent à Rimatara.
Oui, le troisième jour de recherche sur l'île des Australes, l'espoir de retrouver en vie la jeune fille de 11 ans disparue en mer dimanche matin sont des plus maigres, mais les autorités restent mobilisées. Le jour du drame, la victime était sortie en mer tôt le matin avec son père sur un coq-à-lu de 4 mètres. La météo s'était rapidement dégradée et l'embarcation avait chaviré à l'extérieur du récif au large de la côte est de l'île. Des patrouilles terrestres et maritimes, de gendarmes, de pompiers et de privés avaient rapidement été lancées, mais l'intensité de la houle avait obligé les autorités à concentrer leurs recherches sur la reconnaissance aérienne grâce à un avion gardien puis un hélicoptère Dauphin envoyé depuis Tahiti par le JRCC et l'armée. Même scénario hier, lundi, avec toujours des opérations en mer, à terre et dans le ciel. Ces nouvelles investigations n'ont cependant pas permis de retrouver la jeune fille disparue, précisent aujourd'hui les autorités. Les recherches autour de l'île se poursuivent jusqu'à ce mardi soir.
3 mois avec sursis pour 90 plants de cannabis.
Oui, un couple a été condamné ce matin après la découverte de 90 plants de paca dans la serre du logement qu'il louait sur la côte ouest. 90 000 francs, on lui dit, avaient été saisis. La femme a expliqué qu'il s'agissait de CBD pour soigner ses douleurs articulaires et qu'aucun médicament ne parvenait à les calmer. Son compagnon a précisé qu'il était contre cette culture, qu'il n'était que consommateur occasionnel. Le tribunal les a finalement tous les deux reconnus coupables, condamnés à 3 mois ferme avec sursis.
Emma Nava Domingo est prête pour Miss France.
Et oui, la Miss Tahiti 2024 était sur notre plateau ce matin, à quelques jours de son départ pour le concours national. Ce sera le 5 novembre. La question qui sera posée le 14 décembre prochain à Poitiers, c'est bien sûr qui sera la 95e Miss France. Alors toute la Polynésie est persuadée de la réponse. Emma Nava Domingo a toutes les qualités nécessaires pour prendre la suite d'Edna Tepava, de Tida Fuller, de Mareva George en 91, Mareva Galanter en 99 et puis bien sûr Vaimalama Chavez en 2019. Elle se sent sereine, prête, impatiente même de prendre l'avion. Une sérénité qu'elle a acquise à force de préparation, écoutez.
Oui, il y a une préparation assez classique avec la culture générale, le sport, l'éloquence, la prise de parole en public. Mais ce que je retiens, moi, c'est que c'est surtout une préparation qui est mentale, émotionnelle peut-être, parce que ça nous demande de relever beaucoup de défis personnels, oser se faire confiance, oser se montrer, oser faire face au jugement des autres.
Voilà, oser se faire confiance et oser se lancer dans l'aventure, surtout. Emma Nava Domingo n'a plus de doute sur sa volonté, plus de doute non plus sur sa détermination. Elle connaît déjà son programme à l'arrivée à Paris.
J'arrive en France, j'ai quelques jours pour m'occuper de mes rendez-vous en tant que Miss Tahiti, visiter par exemple la délégation polynésienne, les sponsors. Et ensuite, le 14 novembre, j'intègre l'aventure Miss France. Et jusqu'au 14 décembre, je suis avec les 29 autres candidates. Donc oui, on aura un voyage d'intégration qui se fera en Côte d'Ivoire. C'est assez incroyable pour moi parce que j'ai toujours rêvé d'aller en Afrique.
Emma Nava Domingo, dont l'interview complète est à retrouver sur notre site et notre page Facebook. Elle nous parle, nous a aussi parlé de la cause qu'elle veut mettre en avant dans ce concours Miss France, la santé mentale. Dans